Notes de comptoir. La vie du territoire au travers des cafés-concerts, bars associatifs, guinguettes et micro-lieux. Un magazine proposé par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec SuperMab, le réseau des scènes et musiques actuelles, le collectif Culture Barbare et Radio Boa.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série consacrée aux micro-lieux de diffusion des musiques actuelles en Bretagne, Notes de comptoir. Dans ce nouvel épisode, cap sur Saint-Snoux en Ille-et-Vilaine, où l'on pousse les portes du Bar à nous, ce café épicerie porté par une bande de passionnés a vu le jour grâce à une dynamique citoyenne forte. Entre enthousiasme des débuts et ouverture à de nouveaux publics, il cherche son équilibre avec la musique comme moteur de rencontres et d'échanges. Et juste après, en deuxième partie, on retrouvera Lucie Bruyet, coordinatrice de Bretagne Tiers-Lieux. Lucie nous parlera de ces espaces hybrides où culture, sociabilité et engagement citoyen se croisent. Mais pour l'heure, direction Saint-Snoux, un reportage réalisé par Alan Barraud de votre radio locale rennaise, Quartier des Ondes.
Rencontrer et poser ce regard sur l'être humain qui s'avance, sans jugement ni intolérance. La voilà la liberté. Liberté, liberté d'aimer l'être humain qui s'avance. Mais la voilà la délivrance, l'amour de soi retrouvé. Liberté ! Liberté !
Bienvenue au Bar à nous, lieu de rencontre, d'échange et de culture avec et pour les habitants de Saint-Snoux et ses alentours. Bar, épicerie et spectacle, nous allons découvrir dans ce reportage l'utilité d'un tel lieu pour les habitants et habitantes, de l'importance du collectif dans ce type de projet et de la place que joue l'art et la musique au sein du Bar à nous. En effet, le Bar à nous n'est pas un bar comme les autres. Il est organisé en SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Avant de rentrer dans les détails de cette organisation, je vais laisser Natacha, salariée et bénévole, nous expliquer un petit peu la genèse de ce projet fait par et pour les habitants de Saint-Snoux, le Bar à nous.
Les assoiffés, donc les derniers patrons, sont partis en 2018 et c'est à la suite de ça que les habitants se sont regroupés. Et on a une petite affiche historiquement, je ne sais plus où elle est rangée là, mais qui dit « Et si ce bar devenait le nôtre ?» Et la première réunion est partie de là. Et donc il y a un groupe d'habitants très motivés qui s'est monté, qui a fait des recherches sur quel statut juridique, quelle forme ça pouvait prendre, qu'est-ce qu'on voulait comme valeur. Et donc du coup, ça a demandé un petit peu de temps. Et entre 2019 et dans 2020 et 2022, il y a eu des sessions estivales, donc de juillet à mi-septembre, des estivales dans le jardin, simplement le dimanche. Et on a ouvert dans les locaux à l'intérieur en avril 2022, avec du coup l'arrivée des salariés. C'est là qu'on est arrivé avec ma collègue Sophie. Alors en tant que salarié, on est déjà aussi sociétaire de la société coopérative. Le rôle de salarié, c'est barman et épicier finalement. On s'occupe des commandes, des stocks, de faire vivre le lieu, d'accueillir, de servir, voilà. Et du coup, on a le loisir, vu qu'on est sociétaire également, de se positionner en tant que bénévole dans certains postes. Là aujourd'hui, je suis référente animation, donc j'accueille l'artiste, j'aménage la salle, on les chouchoute, voilà. Mais on peut être bénévole en commission restauration, par exemple, comme ma collègue Sophie, qui sur des repas organisés pour des groupes privés, par exemple, on fait des repas. Et tous les usagers, tous les clients ne sont pas sociétaires. Mmh. Du coup, il n'y a pas besoin d'être adhérent ou sociétaire pour venir boire un coup ou faire ses courses. Mais du coup, c'est l'esprit collectif. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, l'idée, c'est que ce soit complètement transversal. Nous aussi, en tant que patron, en tant que salarié, on n'a pas de patron. On est tous collègues, que ce soit salariés ou bénévoles, c'est une gouvernance partagée en fait. L'esprit du Bar à nous, c'est complètement, c'est une SIC, hein, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, et le collectif est très vivant ici, parce que du coup c'est comme si on formait un morceau, un grand puzzle, et chaque petit morceau de puzzle est un sociétaire, et du coup chacun arrive avec ses idées, ses valeurs, ses compétences, et du coup ça complète, c'est ce qui fait qu'on arrive à être relativement autonome.
Du coup vous êtes combien de salariés dans l'équipe ?
Et ben aujourd'hui on est 5 On couvre à peu près, je vais pas dire bêtise, 80 heures d'ouverture, d'amplitude d'ouverture de magasin. Du coup, historiquement, on était deux de CDI. Et puis, à force de voir qu'il y a de moins en moins de bénévolat, justement, on prend des extras. Et puis, aujourd'hui, on est cinq.
Et niveau bénévole, en ce moment, vous êtes combien de bénévoles actifs ?
Très bonne question. Il y a une vingtaine de bénévoles actifs, à peu près.
L'organisation en SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, signifie que le bar à nous fonctionne avec le soutien de sociétaires qui achètent une part sociale du bar. Un choix qui permet, avec l'aide des bénévoles et des salariés, de faire vivre le lieu. On écoute Natacha, salariée et bénévole, ainsi que François, bénévole en tant que coordinateur au bar à nous, nous en parler.
Donc il y a une grosse partie du capital qui est détenue donc, par des sociétaires. Aujourd'hui, on est 193 sociétaires, donc ils détiennent au moins une part en fait. Et après, il y a d'autres types d'investisseurs en fait. Donc par exemple, les cigales qui sont des gens qui ont un petit peu d'argent à placer, puis qui cherchent à le placer dans des projets qui sont qui sont d'intérêt collectif. Donc c'est une manière alternative en fait de placer son argent en fait. Ouais.
Il n'y a pas de renouvellement. À partir du moment où tu prends des parts de sociétariat, tu es sociétaire autant que tu veux, le nombre d'années que tu veux. Tu peux récupérer tes parts au bout de 3 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Et puis, il y a différents niveaux d'implication, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des sociétaires qui habitent dans le sud de la France ou en Suisse et qui, forcément, de fait de la distance, ne peuvent pas s'impliquer physiquement, mais ils avaient envie de soutenir le projet. A contrario, il y a aussi plein de sociétaires qui sont à 15-20 km à la ronde et qui ont tout le loisir et la joie de venir aider pour des livraisons, par exemple des grosses livraisons qu'on reçoit, ou du coup en tant que salarié on ne peut pas être en haut et être en bas à la cave à réceptionner une livraison, prendre des créneaux de tavernier sur les soirées de concert par exemple, prendre des créneaux d'épicerie pour que le salarié fasse sa pause entre 13 et 15 et aussi, donc ça c'est vraiment être en face de la clientèle et voilà. Mais il y a aussi intégrer des commissions, la commission finance, la commission RH pour aider au développement et amener des nouvelles idées, des nouvelles énergies et du coup régulièrement on a des nouveaux sociétaires qui prennent des parts. C'est 100 euros la part, payable en plusieurs fois. Et après, il y a des sociétaires qui prennent des fois plusieurs parts, mais c'est pas parce que tu as plusieurs parts que tu as plus de voix à l'AG.
Est-ce qu'il y a un bureau aussi, comme dans une association ?
Ce qui pourrait ressembler à ça, c'est notre conseil coopératif qui se réunit à peu près tous les mois et demi, 2 mois. Et du coup, dans le conseil coopératif, se réunissent tous les référents des commissions. Donc, il y a le référent commission épicerie, commission animation. Et c'est là où, du coup, remontent toutes les informations ou décisions à prendre de chaque commission. Ça remonte au coco. Et puis, du coup, c'est discuté, c'est voté. Et puis après, ça redescend.
Le grand défi dans les SIC, c'est la longévité d'une telle organisation. Comment maintenir l'enthousiasme des débuts entre sociétaires, l'engagement bénévole et aussi comment s'ouvrir à de nouveaux publics. On écoute Adèle, bénévole et sociétaire au bar à nous, ainsi que Natacha et François, entendus plus tôt.
Sur les questions de ruralité, quand même, je trouve que c'est important que ça existe, ces projets-là. Même si, il y a des hauts et des bas dans l'enthousiasme. Et je sais que voilà, c'est un lieu qui vit, mais il y a plein de gens pour qui c'est pas simple, parce que il y a eu des histoires de concurrence. Je trouve que ça fait part. Enfin, c'est pour faire vivre vraiment le. Enfin, on peut pas chouiner que dans la ruralité ça fonctionne pas et que les villages y meurent si on vient pas soutenir ce genre de projet. Enfin, ça fait quand même exister. Alors, avec plein de problématiques, avec plein de questions, avec plein de. Mais parce que on va pas se mentir, c'est quand même un petit truc de néo-rural qui vient dire un peu à tout le monde. Mais nous, on sait vivre et on sait faire de la programmation culturelle et artistique. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi garder un peu d'humilité, un peu de. Voilà, faut aussi être conscient de ce qu'on propose et à qui on le propose et comment on le propose, mais ça fait aussi clairement vivre le tissu local et la ruralité. Et voilà, moi j'ai envie de participer à ça, même si c'est à une mesure. Voilà, chacun a sa hauteur et c'est cool et sa vie comme sa vie. Et puis il y a peut-être des périodes où ça sera plus compliqué en fait et c'est ok. Hein, mais
Notre problématique aujourd'hui, c'était comment maintenir l'enthousiasme des débuts entre sociétaires, comment s'ouvrir à de nouveaux publics et quelle place pour la musique dans cette alchimie. Selon toi, comment vous maintenez cet enthousiasme entre sociétaires, même d'action bénévole au sein du bar à nous ?
Et bah, c'est une grosse question et c'est un vaste sujet, hein, parce que du coup, on connaît bien la difficulté du bénévolat dans toute forme associative. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on rayonne, c'est ce qu'on dégage. On a quand même la chance, et puis vous en êtes la preuve aujourd'hui, c'est que du coup, on a eu plusieurs reportages radio qui ont joué en notre faveur. C'est la force du collectif, parce que chacun dans le collectif a son petit réseau personnel ou professionnel, et qu'à force de communiquer, il y a un rayonnement qui se fait.
C'est une vaste question. C'est essayer d'avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées. Essayer de remobiliser les bénévoles, c'est pas toujours simple. Le problème ici, c'est que les gens ont tous beaucoup d'activités, ils font partie de beaucoup d'assos et tout ça, donc ça fait voilà. Il faut réussir à trouver un intérêt en plus.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés, peut-être à un manque d'enthousiasme à certains moments ? Et si oui, comment vous avez pu le résoudre ?
C'est sur les créneaux bénévoles taverniers où c'est compliqué, en fait. Là, par exemple, aujourd'hui, il n'y a aucun bénévole qui s'était inscrit sur le créneau 13-15 pour que mon collègue prenne sa pause. Il y a eu fermeture exceptionnelle. Donc, on fait un petit écrito, on fait une com Facebook. Mais c'est aussi la vie du lieu. Et on est des humains, c'est vivant. Donc, on essaye. C'est arrivé très rarement. Il y a des fois où on se heurte à ça.
En tout cas, s'il y a des auditeurs, auditrices qui nous entendent dans le coin...
Vous êtes les bienvenus.
Même de loin, du coup, si vous voulez soutenir le projet. Vous allez vraiment jusqu'au bout. On parlait au tout début de la programmation. Donc, vous allez vraiment au bout dans le collectif, puisque même votre programmation est participative.
Oui.
Il y a deux formules, je cite, organiser quelque chose, deux formulaires pour organiser quelque chose ou alors pour être programmé.
Oui.
Tout le monde peut y répondre à ce questionnaire.
Bien sûr. Alors, c'est différent pour les animations, parce que les animations, c'est souvent des gens du coin. Il y a des artistes qui viennent d'un peu partout en France. Il y a même une compagnie belge qui est venue l'été dernier, donc qui remplissent le formulaire. Et puis après, tout le monde est logé à la même enseigne, hein, pour le coup, parce que c'est un coup de poker pour être choisi par les gens qui sont là à la réunion trimestrielle. Quoi.
Et est-ce que ça participe justement à renouveler aussi le public du bar à nous, à accueillir des nouvelles personnes ?
Bien sûr, parce que du coup, chaque compagnie, spectacle, concert amène son propre réseau, en fait. Ou chaque style, en fait, de musique ou de spectacle amène son propre réseau. Donc c'est riche.
Est-ce qu'il y a des conditions pour remplir ces formulaires ?
Aucune. Et on fait même des gujos pour les artistes.
Et selon toi, quelle est la place un peu de la musique au bar à nous ? Quelle est son importance pour les habitants, pour les usagers ?
Tous les jours, il y a de la musique. Alors, en fonction du salarié qui est en poste, chacun met un petit peu sa playlist favorite. Et c'est ce qui fait aussi la diversité de l'accueil, du sens de l'accueil, ou des personnes qu'on est.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que le fait d'avoir des animations, en fait, c'est aussi une part très importante du modèle économique, parce qu'en fait, le bar tout seul ou l'épicerie toute seule, en fait... n'aurait pas une fréquentation suffisante pour que le modèle tienne, en fait. Donc le fait d'avoir des animations, c'est pas une obligation, c'est un plaisir aussi, mais disons que ça fait partie du modèle pour que justement il y ait une fréquentation supérieure et que le chiffre d'affaires soit un peu plus élevé, quoi.
Le bar à nous a une place très importante dans la vie sociale et culturelle des habitants de Saint-Snoux et de ses alentours. Le choix d'être organisé en SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, d'être un projet collectif et participatif jusque dans la programmation, permet au bar à nous d'être un lieu vivant, socioculturel et intergénérationnel, de permettre un accès facile à des produits alimentaires, notamment locaux, de faire vivre le monde du spectacle avec une programmation régulière et de bonnes conditions pour les artistes. Sans cette organisation, il serait plus compliqué de faire vivre un tel lieu aussi animé. Un grand merci à toute l'équipe du bar à nous pour l'accueil chaleureux. Si vous êtes dans le coin, passez les voir. Vous aussi, vous pouvez participer au projet, proposer des spectacles, des animations ou même mettre la main à la pâte. Le bar à nous, bar, épicerie et spectacle à Saint-Snoux, avec et pour les habitants et habitantes.
Demain, c'est revenir. Demain, c'est sourire. Demain, c'est jouir. Demain, c'est toi. Demain, c'est nous. Demain, c'est amour. Demain, c'est...
Voilà. l'instant un reportage tourné dans ce lieu hybride qu'est le Bar à nous à Saint-Snoux en Ille-et-Vilaine par Alan Barrault de votre radio locale rennaise Quartier des Ondes. Pour aller plus loin sur le sujet et en savoir davantage sur ces lieux hybrides, tiers-lieux et leur diversité d'activités, nous sommes en compagnie de Lucie Bruyet, directrice de Bretagne Tiers-lieux. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Avant de découvrir le rôle un petit peu du réseau Bretagne Tiers-lieux, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réagi à ce reportage tourné au Bar à nous ?
Un beau reportage dans un lieu qui rassemble beaucoup des caractéristiques que nous, on défend à l'association Bretagne Tiers-lieux, des lieux de proximité, des lieux d'accueil inconditionnel. Un modèle d'activité hybride et puis on le voit, c'est une grosse partie du reportage, une grande place accordée à la contribution aux usagers, à la participation dans le cadre de la gouvernance de la structure. Donc vraiment beaucoup de belles choses que nous on défend à la fois dans nos projets au quotidien, dans notre manifeste et dans la vision qu'on porte politiquement dans le réseau Bretagne Tiers-lieux.
Alors Bretagne Tiers-lieux est un réseau donc qui fédère et accompagne les tiers-lieux en Bretagne, ces espaces hybrides. Pour commencer, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme tiers-lieux et est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas un petit peu galvaudé ?
Bonne question. Disons que alors les tiers-lieux, on peut en avoir une définition plus ou moins restrictive selon les réseaux dans lesquels on se place. Nous, en Bretagne, on a fait le choix de faire une vraie définition de ce qu'on entend par tiers-lieu, puisque dans d'autres réseaux, parfois la définition peut rester floue et volontairement floue. Nous, on a choisi de vraiment y mettre du concret et de dessiner les contours de ce qu'on entend par la notion de tiers-lieu et d'y intégrer des éléments forts, politiques et militants, qui nous place vraiment proche des réseaux de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous, on défend des lieux, déjà des lieux avec un lieu repère dans un territoire. On défend des lieux avec un modèle économique hybride, mais qui est au service d'un projet social. On défend, bien sûr, des espaces d'expérimentation et de coopération. Ça, c'est un peu l'ADN de tous les réseaux de tiers-lieux. Et puis on met l'accent et la lumière beaucoup sur la dynamique collective. C'est des projets certes entrepreneuriaux, mais qui ont à cœur d'être développés dans une dynamique collective, comme le Bar à nous l'expliquait, avec des instances de participation, de coopération, où se croisent à la fois des habitants, des acteurs publics, des acteurs associatifs, différents partenaires, les entreprises du territoire. Voilà, de faire commun et dans un lieu totem sur un territoire.
Dans le reportage, on comprend que le Bar à nous donc fonctionne en SIC, Société Coopérative à Intérêt Collectif. Est-ce que c'est la forme juridique la plus adaptée ou comme les projets, il y a différentes formes ?
Alors, les projets de tiers-lieux sont très divers. Divers à la fois dans leur dimensionnement, dans leur territoire d'implantation, dans leur thématique aussi développée. On a des lieux autour de l'alimentation, des lieux autour de la santé, autour de l'éducation, autour de l'éducation à l'environnement. Enfin, ça peut être très divers. Donc, la forme la plus adaptée, c'est pas forcément la SIC. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que dans la continuité de ce que je disais, du fait qu'on défend des lieux collectifs, les lieux de notre réseau sont en grande partie des lieux développés sous des statuts associatifs ou de l'économie sociale et solidaire, donc des SIC, des SCOP, des structures économiques agréées ISUS. Voilà, on est vraiment là-dessus. Donc, je ne sais pas si la SIC est le plus adapté, mais en tout cas, c'est une forme privilégiée par beaucoup de projets en Bretagne.
Alors, il existe 231 tiers-lieux sur la Bretagne historique, dont 70% ouverts depuis 2020, donc post-Covid. Comment vous analysez ces chiffres et est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, ils augmentent ?
Alors, c'est un mouvement qui est à la fois jeune parce qu'en renouveau, effectivement, post-Covid, mais il y a aussi beaucoup de lieux qui existaient avant et qui ont rejoint le mouvement parce qu'ils ont trouvé une proximité de sens, une proximité philosophique et militante. Mais en réalité, voilà, il y a des lieux qui existent depuis 10, 15 ans. Ça peut concerner des maisons de quartier, ça peut concerner tout un tas de structures qui existent depuis longtemps dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est un mouvement, je dirais, en renouveau et en expansion effectivement depuis 2020 et avec des enjeux assez forts de pérennisation actuellement pour la suite.
Justement, quels sont ces enjeux, comment vous les traitez, comment vous essayez de donner, j'imagine, des clés aussi à ces lieux.
Donc à l'association, on fait déjà de l'animation pour échanger sur tous ces sujets, notamment par exemple la mobilisation bénévole et citoyenne dans les lieux. On propose également du co-développement en co-terre ou de l'accompagnement plus technique avec des compétences juridiques, économiques à l'association pour qu'on puisse encore une fois s'aider les uns les autres et puis mobiliser aussi des expertises d'autres partenaires, des indépendants, des acteurs publics qui puissent venir en aide à nos adhérents. Et puis on fait tout un travail aussi de fond sur du plaidoyer au niveau des collectivités territoriales et des acteurs publics, puisque ce qu'on voit, c'est que c'est des lieux qui, certes, développent peut-être plus qu'avant des modèles hybrides économiques, donc avec une part d'autofinancement qui est peut-être plus importante qu'auparavant dans l'économie sociale et solidaire, mais ça reste des lieux qui assurent des missions d'intérêt général et d'utilité sociale dans les territoires. Et donc ces activités-là, c'est important de maintenir un soutien pour ce volet-là dans ces lieux-là et de travailler du coup avec les collectivités territoriales, avec les acteurs publics, avec des partenaires privés aussi pour soutenir ce volet-là qui, lui, n'a pas vocation à devenir lucratif.
Est-ce que les tiers-lieux sont en train d'inventer de nouvelles manières de vivre ensemble ou de consommer et ou de consommer la culture? On entendait aussi dans le reportage que proposer des animations faisait partie intégrante du bar à nous.
Je pense que les tiers-lieux n'inventent pas, me permettre, mais je pense qu'ils viennent proposer en fait une solution et une incarnation dans les territoires à des envies de lien social, de consommation en local, d'investissement au local dans des projets citoyens participatifs. Ça vient proposer une solution aux habitants qui ont envie de s'investir dans leur commune, dans leur territoire, et aussi une méthode pour faire du lien entre partenaires. Donc avec les collectivités, avec les entreprises, avec les citoyens, les associations. Ça vient remettre du lien en fait en proposant des lieux pour se rassembler et pour discuter aussi de tout un tas de sujets qui n'avaient plus de place peut-être dans certains territoires, notamment en Europe, pour s'exprimer.
Et quels sont-ils ces sujets?
Je dirais qu'il y a des sujets que j'ai entendus dans le reportage, c'est hyper intéressant. Il y a une tension, par exemple, entre les néo-ruraux et les gens qui sont sur les territoires depuis longtemps. Ça s'exprime beaucoup dans plein de territoires. Il y a des questions autour de la culture, beaucoup dans les territoires, et surtout en Bretagne, dans la ruralité. Il y a la question de la place du bénévolat et du travail aussi pour la communauté, pour le collectif. Voilà, je pense déjà ces trois éléments.
Est-ce que vous mettez des points de vigilance quand vous accompagnez les actrices, les acteurs, les adhérents, les bénévoles, les salariés de ces lieux à veiller à ne pas finir dans l'entre-soi? Est-ce que ce ne soit pas de l'entre-soi?
Oui, on en parle beaucoup. C'est un enjeu qui est très souvent abordé en fait entre équipes de tiers-lieux. Dans les principes fondateurs des tiers-lieux, on retrouve la valeur de l'accueil inconditionnel, mais il ne s'agit pas de le déclarer. En fait, c'est quelque chose qu'il faut vivre et faire vivre au quotidien dans un lieu. Et là, c'est hyper important de pouvoir outiller les équipes dans les tiers-lieux et puis se former, parce que accueillir tous les publics, c'est faire un grand travail déjà de comprendre les attentes et les besoins de tous ces publics. Pour pouvoir y répondre et accueillir dans de bonnes conditions. Puis on en parle beaucoup et c'est un travail de longue haleine et qui nous rapproche d'un travail qu'on peut trouver dans les mouvements de l'éducation populaire, du social, de la taille sociale. Voilà.
Est-ce que vous voyez, Lucie, une spécificité bretonne dans la manière dont ces lieux voilà, se construisent en Bretagne ou se réinventent ou,
Je pense qu'il y a, une spécificité du lien qu'on a à l'économie sociale et solidaire. Je le disais un peu avant. On est sur un mouvement qui est très majoritairement un mouvement d'économie sociale et solidaire et donc qui a à cœur de faire vivre l'intérêt général et l'utilité sociale dans les territoires. On a aussi une deuxième spécificité qui se retrouve dans d'autres régions mais qui est très forte en Bretagne, c'est que nos lieux sont principalement implantés dans des communes peu denses, voire très peu denses au sens de l'INSEE, donc avec peu d'habitants et des grands enjeux, des forts enjeux d'accès à des services de proximité, des enjeux d'accès aux droits et de liens sociaux et intergénérationnels.
Avant de vous demander les projets à venir pour Bretagne tiers-lieu, comment se portent ces lieux aujourd'hui ?
Ils se portent bien. Ils se portent bien, c'est un mouvement très vivant et je pense qu'il y a une forte capacité de résilience aussi parce que ils s'adaptent aux besoins du territoire et qu'il y a cette logique de libre contribution qui fait que les projets ils sont pas figés, ils évoluent avec les enjeux qui évoluent et les territoires qui évoluent et les énergies nouvelles. Voilà, donc c'est des lieux qui sont vivants et dynamiques, comme tout le reste de l'économie sociale, qui ont de forts enjeux de lien aux politiques publiques et au soutien des collectivités.
Pour terminer, Lucie, quels sont les projets à venir pour Bretagne tiers-lieu dans les semaines, mois, années à venir ?
On est sur clairement un mouvement qui réfléchit à sa consolidation et à renforcer le pair-à-pair entre les lieux. Donc nous, on propose de plus en plus de dispositifs d'accompagnement entre pairs pour valoriser la compétence des équipes des tiers-lieux et qui puissent la transmettre à d'autres, qui est une vraie logique de compagnonnage, ça nous tient fortement à cœur. Et puis un deuxième gros chantier, ça va être celui de la place de ces lieux, notamment en ruralité, par rapport au débat démocratique, à la citoyenneté et in fine à un positionnement politique, puisque ce sont des lieux où on débat beaucoup et où ce débat il va avoir une place forte dans l'année qui vient avec les municipales qui approchent en 2026. Et donc, c'est des lieux où on va discuter de projets locaux, de projets de territoire, de citoyenneté. Et donc, on doit s'équiper, on doit s'outiller et pouvoir accompagner ce débat et assumer aussi les controverses et les faire vivre et faire vivre le débat citoyen dans les territoires.
Vive le débat et bonne discussion au réseau, collectivités, acteurs, actrices de l'économie sociale et solidaire. Lucie Bruyet, merci d'avoir été notre invitée et d'avoir participé à cette série qui est Notes de comptoir. Vous pouvez vous rendre sur le site de Bretagne Tiers-Lieu si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'infos sur bretagne-tiers-lieu.bzh. Et c'est la fin de cet épisode, alors pourquoi pas se faire une petite virée dans l'un de ces lieux près de chez vous pour les soutenir et continuer de vibrer au son de ces artistes et groupes programmés. Si ce n'est pas possible là tout de suite, eh bien vous pouvez toujours écouter cet épisode consacré au Bar à nous et continuer votre périple des découvertes des micro-lieux de diffusion des musiques actuelles en Bretagne sur corlab.org. À bientôt pour un nouvel épisode.
C'était Notes de comptoir, un magazine produit par la Corlab et par Radio Boa, la radio régionale associative bretonne en DAB+, avec le soutien du Centre national de la musique.